Pour Gwen Rouget, invitée de notre précédent épisode, la capacité à travailler en équipe est la clé de toute direction artistique. Tout est interdépendant. Passons désormais à Benoît Delacaise, responsable de la programmation artistique de la Maison de la Culture d'Amiens. Bonjour Benoît, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je suis Benoît Delacaise, je suis conseiller à la programmation à la Maison de la Culture d'Amiens et directeur des productions de Label Bleu, une structure de production de musique de jazz au sein même de la Maison de la Culture à Amiens.
Ça consiste en quoi pour toi, être programmateur artistique ?
Un programmateur artistique, c'est quelqu'un qui, dans un lieu donné, une salle de spectacle, un hall, une salle des fêtes, met en adéquation une proposition artistique avec un public sur un territoire donné également, en fonction d'un certain nombre de conditions techniques et financières.
S'il y avait trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier, ce seraient lesquelles ?
Un travail de veille et de curiosité permanente par rapport à l'ensemble des propositions artistiques qui se déploient. Elles sont nombreuses. Chaque jour, nous sommes extrêmement sollicités sur de la création, du travail autour du répertoire. Et j'accompagne cette qualité, si on peut dire ça, ou cette compétence en tout cas, par également un travail de fidélisation d'une famille d'artistes. C'est-à-dire que quand on trouve des adéquations avec des artistes et qu'on considère tout d'un coup qu'elles ont leur place dans le lieu pour lequel on programme des spectacles, d'un coup, eh bien, il faut aussi les conserver, il faut aussi être partenaire d'eux, les accompagner dans leurs efforts, les suivre. Ensuite, évidemment, il faut être tout à fait pragmatique dans ses choix de programmation, avoir le sens économique aussi de la chose, puisque nos lieux fonctionnent avec de l'argent public, nous sommes des lieux qui ont une mission de service public, et il faut évidemment que le projet artistique puisse rentrer dans cette logique économique aussi du service public.
Ça veut dire quoi avoir une ligne artistique ?
Avoir une ligne artistique, c'est être capable de déterminer le faisceau d'artistes qui sera représentatif du projet, du lieu pour lequel on programme. La Maison de la Culture d'Amiens est une scène nationale, elle a dans ses objectifs d'être le plus pluridisciplinaire qu'elle puisse. Nous devons être présents sur chacune des esthétiques, et dans chacune des esthétiques, on doit être présent dans la modernité et dans le répertoire.
Quel est le modèle économique d'une scène nationale ?
Il est basé sur un équilibre de dotation entre des collectivités territoriales et l'État. On a un budget qui est composé essentiellement de fonds publics, hein, comme tout lieu labellisé en France, comme toutes les scènes nationales. Pour Amiens, à proprement parler, on a cette collaboration étroite entre les services de l'État via les directions régionales, les DRAC, et les services de Amiens Métropole qui se parlent et qui travaillent très bien ensemble. On a également un soutien très important du Conseil régional des Hauts-de-France et un soutien du Conseil départemental de la Somme. L'ensemble des collectivités œuvrent pour que nous puissions financer le projet artistique du directeur de la Maison de la Culture en la personne de Laurent Dréano. En face de ces dotations publiques, nous avons le droit, en tant qu'établissement public, aussi à avoir recours à un peu de mécénat. On sollicite également des sociétés de gestion qui sont partenaires de notre activité. La billetterie est importante pour nous, puisqu'on a quand même 80 spectacles sur la saison. Et à côté de cela, comme la Maison de la Culture est aussi une maison de production, de par les tournées qu'elle organise pour ses spectacles, de par la production aussi de musique avec Label Bleu, elle génère des revenus qui sont intégrés directement dans son activité de programmation, dans son activité de production et de soutien aux artistes.
Par définition, tu es en contact constant avec les artistes. Il ressemble à quoi ce rapport que tu entretiens avec eux ?
C'est un rapport quotidien, évidemment, renouvelé et à renouveler en permanence. Mon rapport, il est celui de quelqu'un qui s'enquiert de savoir comment va l'artiste dans son travail, dans son processus de création, dans son processus de production, comment il construit les choses, comment ça avance, comment ça se monte. Est-ce qu'il a besoin de nous ? À quel endroit il a besoin de nous ? Est-ce qu'il a besoin de nous à un endroit de montage de production, de construction de son décor, de résidence ? Ou alors est-ce que les choses se font et nous arriverons sur uniquement la partie diffusion de l'objet. Et ça se construit dans le temps, évidemment, avec un échange régulier. Et pour la nouvelle famille d'artistes, je dirais pour ceux sur lesquels on est un peu en veille et attentif, une étape très importante, c'est d'aller voir les choses. On ne peut pas se rendre compte du travail si on ne va pas dans la salle de spectacle. Et c'est important pour nous de jauger le rapport qu'ont ces artistes avec leur public, évidemment, puisqu'on est quand même aussi, nous, au service d'un public à Amiens.
Comment est-ce que tu es devenu programmateur artistique ?
C'est mon parcours qui m'a conduit à arriver à ce poste-là à Amiens. Je venais, moi, d'une structure dans laquelle j'accueillais et je programmais de la musique de chambre. Le directeur à Amiens, à l'époque, cherchait quelqu'un qui avait plutôt un profil sur la musique, donc ça tombait bien. Donc, je suis rentré dans cette maison de la culture via les relations publiques et un profil plutôt musique, musique classique. Ensuite, je suis passé assistant du directeur à la maison de la culture et d'assistant, je suis passé conseiller à la programmation. Le label bleu est arrivé en plus dans les activités. Ce qui fait que progressivement, j'ai pris la main sur un certain nombre de documents, d'éléments qui concernaient la programmation et que les artistes, avec le temps, avec les années, avec les spectacles, on les rencontre, on les côtoie, on sait un peu où les trouver, comment les chercher et surtout, on comprend là où se fait l'adéquation entre le lieu dans lequel on travaille, le public qui le fréquente et le potentiel public qui nous reste à toucher et la famille d'artistes qu'on pourrait mettre en face. Cette profession, c'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup par l'expérience des choses et par le ressenti qu'on a du lieu dans lequel on travaille. Et je pense que je serais un programmateur tout à fait différent si j'étais dans une autre ville déjà, d'une part, parce que c'est intimement lié au territoire sur lequel on est. Et ensuite, si je n'étais pas dans un lieu pluridisciplinaire, je travaillerais certainement dans une autre temporalité, avec d'autres familles d'artistes, et pas du tout de la même manière, ça c'est certain, j'en suis convaincu.
Comment est-ce que tu choisis les projets que tu accompagnes ou que tu programmes ?
Il y a toujours de toute façon une idée d'anticipation, puisque nos saisons se font d'une année sur l'autre. Il y a un dosage également entre ce qu'on décidera de mettre en théâtre, ce qu'on décidera de mettre en danse et en musique. Et ça nous détermine un certain nombre de propositions par type d'esthétique. Donc si on considère que la musique représente à peu près 40% de la programmation de la Maison de la Culture d'Amiens, je sais le nombre de propositions que je vais pouvoir faire entrer dans ces 40% à peu près. Déjà, ça va me contraindre dans ma sélection. Et puis ensuite, il y a évidemment des affinités. Même si on ne programme pas que ce qu'on aime, forcément, il y a quand même aussi des affinités qui sont liées à la personnalité du directeur, à son profil de projet, et aussi à l'histoire du lieu. Et il y a évidemment un critère économique, à un moment donné. On ne peut pas non plus payer tous les artistes qu'on veut et toutes les plus grandes stars tout le temps. Il faut aussi faire rentrer des programmations plus modestes parfois, dont on estime qu'elles ont toute leur place d'un point de vue artistique dans la saison, et les conjuguer à des propositions plus onéreuses, plus coûteuses, pour des questions de rareté aussi de certains artistes.
Est-ce qu'il y a des projets dont tu es particulièrement fier, ou au contraire qui se sont un peu moins bien passés ?
Les projets dont on est le plus fier, c'est souvent les projets qu'on accompagne depuis le début, c'est-à-dire qu'on a aidé en production, dont on a accompagné le processus de création, et dont on voit l'aboutissement sur notre scène, et dont on va défendre l'intérêt également sur d'autres scènes. On a accompagné pendant de nombreuses années Denis Podalydès dans ses créations, on accompagne aujourd'hui un metteur en scène qui s'appelle Jean-René Lemoine. C'est une grande fierté aujourd'hui de se dire qu'on va pouvoir créer son Bérénice dans 2 ans ou dans 1 an à Amiens et qu'il pourra tourner partout en France. On est toujours très heureux quand on arrive à avoir des grands solistes internationaux et qu'on arrive à les amener dans une ville comme Amiens dont on pourrait penser que finalement, il n'y a pas forcément de public pour ça. Mais quand on fait venir Yevgeny Kissine à Amiens, on a quand même un public pour ça. Et puis on a des gens qui viennent de Paris, qui viennent de Belgique, qui viennent de Rouen. Ça, c'est quand même une grande fierté d'arriver à avoir des artistes, des interprètes de cette envergure-là et de se dire qu'on peut remplir une salle à Amiens avec ça.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'une œuvre ou deux qui t'ont particulièrement marqué ?
Très récemment, je dirais que nous avons accueilli Erwan Keravec avec tout son ensemble de sonneurs, Bignou, Cornemuse. Et ils sont venus interpréter une pièce de Terry Riley qui s'appelle « In Si ». J'avoue que j'ai été vraiment conquis et surpris. J'y allais en me demandant un peu ce qui allait se passer. Et en fait, ils ont mis le public dans un état de transe total. C'était absolument magnifique. C'est ça qui est bien aussi dans nos lieux, c'est que ces moments artistiques aboutis sont aussi des moments où l'équipe tout entière, tout d'un coup, se fédère autour de quelque chose, en communion complète avec à la fois l'artiste qui est là et son public. Et puis, sinon, j'ai aussi un très grand souvenir. Sur ma première année à Amiens, nous avions fait venir un metteur en scène russe qui s'appelle Piotr Fomenko, qui avait monté une adaptation de Guerre et Paix. Et c'était un spectacle absolument fabuleux qui m'avait complètement bouleversé. C'était un travail merveilleux.
Et du coup, toi, tu écoutais quoi quand tu étais petit ?
Quand j'étais petit, j'écoutais déjà beaucoup la musique de mes grandes sœurs. J'étais encore, je pense, en CM1 ou CM2, que j'avais déjà U2, des choses comme ça dans les oreilles. À côté de ça, mes parents étaient plutôt sur l'opéra. Il y a toujours eu beaucoup de musique, en tout cas. Et puis après, quand je suis arrivé au collège, j'ai découvert la guitare, j'ai découvert le rock, le métal. Mais avec toujours cette histoire que j'avais avec le reste, qui fait que j'ai toujours écouté des musiques assez diversifiées, pas dans un seul registre.
Pour terminer, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
Il faut être en mesure de sortir un peu de son précaré, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de montrer aux gens et de se dire que l'œuvre, du moment qu'elle est pensée, qu'elle semble belle, elle peut être montrée. Il faut avoir cette capacité un peu d'éclectisme et de curiosité. Il me semble qu'il faut être très en lien avec son territoire pour faire ce métier, très en lien avec le lieu et l'histoire du lieu dans lequel on travaille.
Au terme de ces deux épisodes, on peut noter que la programmation et la direction artistique consistent à la fois à faire preuve d'éclectisme, de prise de risque, tout en étant conscient des spécificités du territoire et des publics du lieu où l'on programme. C'est savoir mettre en miroir des audaces artistiques face à la réalité du terrain. Pour aller plus loin, découvrez les fiches papiers consacrées aux intervenants et intervenantes de ce podcast sur le site monprojetmusique.fr et écoutez les autres épisodes de cette série dédiés au métier de la musique.